13h05, bienvenue à la commission. Merci pour vos nombreux messages, entre autres sur le secteur de la construction, Luc. On a des données fort intéressantes sur la suite des choses. Puis je veux absolument te lire avant le prochain sujet. Il y a un auditeur qui dit « Nathalie, je suis cimentier. Je ne comprends pas pourquoi je suis payé moins cher à tirer du béton dans le secteur résidentiel que dans le commercial, alors que c'est le même travail. » Ça, c'est un argument qui va être évoqué.
Alors, oui, c'est un bon argument. Et le ministre Boulay a répondu de façon indirecte en disant l'impact sur le prix des logements, ce n'est pas la même chose qu'un impact sur le prix, par exemple, d'une usine ou d'une institution. Donc, il y a un impact sur les usines et les institutions quand on augmente les salaires, mais il est moins ressenti immédiatement par le consommateur. Donc, c'était le seul argument du ministre. Je ne dis pas que c'est un bon argument, mais c'est celui qui nous a livré.
Oui. Alors, Luc, on souhaite revenir sur une discussion qu'on a eue, toi et moi, jeudi dernier, qui a fait réagir nos auditeurs après la publication d'un article qui est venu nous chercher, le cas de la jeune Florence, 24 ans, un article publié dans la presse, signé par Caroline Touzin. On apprend dans cet article que la jeune Florence, c'est un nom, un prénom fictif là, pour protéger son identité, s'est retrouvée au trou dans une prison pour femmes à Laval parce que la ressource intermédiaire où elle vivait, ne savait plus quoi faire d'elle, je vais le dire comme ça.
Ne voulait pas la reprendre.
Ne voulait pas la reprendre. Alors, cette histoire nous a énormément touchés, Luc et moi. On a engagé avec vous une discussion qui a fait énormément réagir. Et ça se comprend parce qu'on a abordé, toi et moi, un sujet très sensible. C'est le sort réservé dans notre société à des personnes qui souffrent d'un handicap ou d'un syndrome, mais qui sont dans une situation extrêmement difficile pour les parents, pour la famille. Et Luc, moi, je souhaite qu'on puisse, toi et moi, revenir pour faire le point parce que il y a des auditeurs qui ont interprété certains de nos propos. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vraiment entendre ce qui s'est dit, on vous invite à réécouter le segment de la semaine dernière, mais jamais au grand jamais, on a soulevé la possibilité ou l'option de l'aide médicale à mourir pour des cas plus lourds, des personnes handicapées dont les cas seraient plus extrêmes, je vais le dire comme ça. Alors, jamais on a envisagé ça. C'est sûr qu'il y a des auditeurs qui l'ont écrit. J'ai lu ces témoignages. Mais et loin de nous, cette idée.
Mais attends, Nathalie, moi, je l'ai évoqué quand même. Moi, j'ai évoqué la possibilité qu'il y ait une forme d'aide à mourir, qu'il faudrait qu'ils prennent un nom différent, etc., pour des cas extrêmes. Mais ce qui est important, c'est que dans mon cas, je n'ai pas proposé que ça soit... Je n'ai pas dit demain matin, il faut que l'État ait le droit de faire ça. Là. Je ne pense pas que l'État a ce droit-là, premièrement, puis qu'il y a une règle, qu'on pourrait respecter cette règle. Il y a autant de cas d'handicap qu'il y a de personnes. Là. Il y a certaines personnes, par exemple, avec dont la santé s'est beaucoup aggravée, qui font des crises à répétition, qui sont tenus dans un état de contention chimique, qu'ils sortent quasiment jamais de cet état-là. Il y a certaines personnes pour qui on devrait réfléchir à ça. Quand je dis « on devrait réfléchir », pas moi, là, c'est les familles, avec l'aide, par exemple, dans certains cas, les familles ont disparu. Ne sont plus là, ne sont plus à la... Ça pourrait peut-être, à ce moment-là, un comité de sages qui dirait, pour cette personne-là, est-ce qu'il y a encore de la qualité de vie? Donner à cette personne-là le droit que nous, on se donne comme être conscient avec l'aide à mourir.
Mais là,
parce que nous, on a ce droit.
Oui, mais actuellement, la loi sur l'aide médicale à mourir n'est pas du tout constituée de cette façon.
Je sais.
Mais ce qui... le cas de Florence nous a fait réagir, mais c'est aussi ta situation personnelle, ta situation familiale.
Oui, ma sœur.
Ta sœur. Ouais. Donc, tu parles peu à la radio, et je comprends. Mais c'est ça qui est venu te chercher. Mais c'est que là, il y a des gens qui nous ont prêté des intentions. Mais ce qu'on voulait faire simplement, c'est susciter une réflexion, ouvrir un débat, un échange avec vous sur des cas comme celui de Florence auxquels notre système est confronté. Et je parlais d'impasse. À ce moment donné, on dit, mais on fait quoi? On s'entend que la place de Florence, ce n'est pas de se retrouver au trou pendant 8 jours dans une prison pour femmes de Laval. Et dans cet article rédigé par Caroline Touzin, il y en avait deux, en fait. Et il y a dans un autre article, on parle de cas qui ne sont pas si rares. Des cas où des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qui sont placées soit en isolement en prison, ou qui se retrouvent à l'urgence dans les hôpitaux. C'est comme s'il n'y avait pas de place pour eux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait comme société? C'est dans ce sens-là qu'on a souhaité, avec vous, engager la conversation. Moi, Luc, si je l'ai fait de manière maladroite, je m'excuse. Je m'excuse, ce n'était pas ça le but. Et j'ai réfléchi à ça en fin de semaine. Je me suis dit, un instant, là, c'est tellement délicat comme sujet, il faut prendre le soin de faire les nuances.
Oui, absolument.
On n'a peut-être pas tout fait, Luc, jeudi dernier, il faut le dire.
Mais c'est important. Le maître mot dans ce que tu viens de dire, c'est conversation. On voulait ouvrir une conversation. Ce n'est pas une thèse de doctorat. Tu ne peux pas prendre une phrase qu'on a dite puis dire « ils ont déclaré
mais
que ».
Mais non.
Tu sais, comme le ministre aurait réfléchi pendant 3 ans à sa loi, il a déclaré que. Non, on discute à bâton rompu pendant 23 minutes d'un sujet délicat, en espérant être le plus humain possible,
oui.
Mais en faisant pas des affirmations. Tu as évoqué le cas de ma sœur. Ma sœur, moi, il n'y a personne dans la famille qui n'a pas, à un moment donné, pensé « ben c'est vrai que ça serait plus simple s'il était décédé, mon petit-neveu. Mm. » Mais moi, une fois, j'ai abordé la question avec ma sœur, jamais dans 100 ans qu'elle veut ça, là. Jamais. Elle a consacré sa vie pour augmenter sa qualité de vie. Elle n'a jamais voulu le placer. Elle n'a jamais voulu le confier à qui que ce soit. Elle est attachée à lui, là, 24 sur 24. Mmh. Il y a 2 heures de répit par jour. Mmh. Maintenant, il n'y en a pas toujours eu 2 heures de répit par jour. Maintenant, il y a 2 heures de répit, puis il va en transport adapté. Puis elle est très reconnaissante de ça. Mais quand j'ai demandé, est-ce que ça serait une solution? Non! Autant que moi, j'aime mon fils, elle aime le sien.
Exact.
Point final. Ouais. Sauf que, on ne peut pas faire l'hypothèse qu'il pourrait arriver à une dégradation de sa santé. Des fois, il passe des jours et des jours et des jours sans dormir. Il devient hypersensible, hyper anxieux. Il fait des crises à répétition. Il fait aussi de l'épilepsie. Il fait des dizaines de crises d'épilepsie par jour, parfois. Donc, imagine-toi une aggravation de son cas. Imagine-toi une aggravation. Imagine-toi le vieillissement de ma sœur. Imagine-toi la maladie de ma sœur. Peut-être qu'à un moment donné, ma sœur... Moi, je voudrais qu'à un moment donné, ma sœur ait le droit de faire ce choix-là. Elle est le droit, pas moi. Elle est le droit. Je voudrais qu'on lui offre ce droit-là, ce droit. Puis sais-tu quoi? Ça serait la meilleure personne au monde pour le prendre. Il n'y a pas un juge qui peut prendre une meilleure décision qu'elle. Il n'y a pas une association de défense des droits des personnes handicapées qui peut prendre une meilleure décision qu'elle. Elle a consacré 36 ans de sa vie à ne pas se déplacer à plus de 30 centimètres de cet enfant-là. Moi, je voudrais qu'on lui reconnaisse un droit si jamais elle voulait l'exercer. Voilà. Hmm. Ça ouvre pas la porte à l'euthanasie dans toute la population.
Mais non.
Je parle de cas particuliers qui pourraient devenir extrêmement graves. Hmm. Et ça me semble être une bonne discussion à avoir.
Oui, et Luc, je peux témoigner parce que Nathalie, ta sœur, je la connais. J'ai déjà rencontré son fils. Et l'amour que porte Nathalie à son fils est inconditionnel. Je pourrais parler de Chantal et Maryse que j'ai accompagnées pour obtenir du répit dans la région de la Naudière. Leur fils est lourdement handicapé. Ils sont adultes aujourd'hui dans un fauteuil roulant, cloués dans un fauteuil roulant 24 heures sur 24, 365 jours par année. L'amour que Maryse et Chantal portent à leur fils, j'en parle, j'ai des frissons. Mmh. Mais comme société, ce qui est extrêmement révoltant, c'est d'être confronté à des situations comme celle qu'a eu à vivre Florence et sa mère. Sa mère s'est occupée de Florence toute sa vie, mais à un moment donné, sa mère a dit « assez, c'est assez ». Alors nous, ce que Luc et moi, on a tenté de dire la semaine passée, c'est dans des cas de figure comme ceux-là, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Quel geste notre société est prête à poser? Jusqu'où notre système peut aller pour procurer des soins de qualité à toutes ces personnes lourdement handicapées? Alors, à tous ceux et celles qui nous ont prêté des intentions, arrêtez ça, là.
L'idée de passer au peloton d'exécution, le moindre handicapé, absolument. D'ailleurs, c'est de nous faire insulte, parce que c'est pas connaître notre humanisme à tous les deux. Et, on va pas en faire étalage de notre humanisme.
Non, pas du tout.
Moi, je pourrais parler du tien, je le connais bien. Uh-huh. Là, je connais toutes les fautes intervenues auprès des personnes dans le besoin. Puis moi aussi, en toute modestie, je peux dire que je suis un humain.
On a ça en commun, Luc.
Ben voilà.
On a ça.
Donc, de nous traiter d'ignobles, puis d'imbéciles, puis de faire des liens entre nous
des et l'Allemagne. Des amalgames.
Des amalgames entre nous et l'Allemagne nazie.
Mais voyons donc, ça n'a absolument rien à voir.
Franchement, si on ne peut plus avoir ce genre de discussion-là au Québec, on puis être traité de nazi dans l'heure suivante, ça ne va pas bien.
Non,
ça ne va pas bien.
C'est ça. Tout à fait, non. Parce qu'il faut avoir ce genre de conversation. Croyez-vous que la solution, c'est d'envoyer Florence au trou? Croyez-vous que c'est d'envoyer tous ces gens-là
en
prison?
Moi, dans le cas de Florence...
C'est complètement ridicule.
Florence, elle a une mère. Florence, elle a une mère.
Oui,
puis elle a une mère qui est très, très, très impliquée encore. Donc, la question ne se pose même pas. Là. Moi, je parle de cas où il n'y en a plus de famille dans le paysage, ou alors c'est une famille qui n'a plus les moyens moraux, psychologiques, physiques, financiers, etc. Et que cette personne-là est au bout du rouleau en termes de dépression. Et que, tu sais, moi, j'ai entendu, puis j'ai pas entendu, pas... Non, il y a un cas réel d'un enfant qui allait à la même école que le fils de ma sœur et dont la mère a mis fin au jour de l'enfant en le noyant. Elle est en prison, cette femme-là. C'est arrivé en Saskatchewan aussi.
Oui.
Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? On veut qu'à un moment donné, quand il y a la détresse la plus abjecte, puis là, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais la détresse la plus abjecte a été tricotée par l'État, parce que c'est l'État qui ne met pas assez de ressources. Ben ça, c'est une discussion intéressante.
Mais c'est ça qu'il faut avoir comme discussion, Luc.
Ben voilà.
Dans l'échelle de nos priorités, quelle priorité on accorde à toutes ces personnes qui souffrent? Puis là, on parle de cas extrêmes, mais des parents qui n'en peuvent plus, là. Écoute, Luc, Chantal et Maryse, OK?
Oui.
L'énergie, le temps qu'elles ont consacré à convaincre le gouvernement, et merci à Lionel Carman, qui un jour a prêté oreille à toutes leurs doléances, et c'est grâce à lui si on est arrivé. Mais Luc, ça a pris plus d'un an, un an et demi. Mmh. C'était l'enfer. Ouais. Mais ça ne peut pas être toujours le parcours du combattant pour tous ces parents qui veulent avoir de la dignité pour leurs enfants devenus adultes.
Mais Nathalie, on sait, à cause de la décision qui a été prise de diminuer les ressources intermédiaires, l'argent qui va être envoyé aux ressources intermédiaires, on sait que dans les prochains mois, il y en a plein qui vont fermer. Puis ces enfants-là, ces parents-là, ces adultes-là, les adultes vont être renvoyés où?
Oui, mais voilà. Voilà.
Dans les hôpitaux?
Mais c'est un réel problème.
Puis l'idée, je lis dans la pensée de certaines des personnes qui ont été les plus critiques, on ne dit pas qu'il faut les tuer. Là.
Non, c'est pas ce qu'on dit.
On ne dit pas ça. On dit que les solutions, la première solution, c'est d'augmenter les ressources. La première solution, c'est de soutenir les familles. Et d'ailleurs, il faut dire quelque chose. Le gouvernement a permis depuis la COVID que le chèque emploi-service soit utilisé par les familles, puis il a été augmenté souvent les chèques emploi-service. Ça, c'est une première bonne nouvelle.
Oui.
Ensuite de ça, il faut augmenter les ressources en ressources intermédiaires. Puis ensuite de ça, mais dans certains cas très précis, je continue de dire, dans certains cas très précis, il faut ouvrir une discussion sur soit les soins palliatifs, soit l'euthanasie, mais dans des cas très, très, très particuliers.
Ouais.
Et Luc, pas celui de Florence.
Non, absolument pas. Luc, on est constructif. Hein? On provoque des discussions, des échanges avec nos auditeurs, avec vous. Mais cette semaine, on va inviter à cette émission des experts pour nous éclairer sur cet enjeu de société. Et moi, je veux citer cet article paru la semaine dernière, des cas pas si pires. Et c'est la psychiatre Chloé Paquette-Houd qui exerce à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui a témoigné à Caroline Touzin, journaliste, qui a écrit cette histoire, l'histoire de Florence. Elle dit ceci, cette psychiatre, « La vérité, c'est que les adultes vivant avec une déficience intellectuelle modérée ou sévère et des troubles graves de comportement, qui ne sont pas capables de crier, d'aller dans les médias, ne sont jamais une priorité de société.
Mm-hmm. »
Alors, c'est ce qu'elle a dit. Puis, elle confirme aussi que les CRDI sont sous-financés, en plus de devoir composer avec un manque de personnel adéquatement formée. Elle dit aussi que dans cet article, on apprend que lors de la plus récente vague de compression dans le réseau de la santé, il y a plusieurs ressources assistance continue, ce qu'on appelle les RAC, où étaient hébergés des adultes vivants avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ont fermé et le suivi, un intervenant pour un usager, a également été retiré à des patients vulnérables. Alors, réalité.
Oui.
Alors, que pensez-vous qui va arriver avec ces pauvres personnes qui sont totalement démunies, totalement vulnérables? Puis vous croyez comme société qu'il faut se mettre les mains sur les yeux puis éviter de parler d'un sujet comme celui-là? Non. Luc et moi, on a décidé qu'on se donnait la latitude, qu'on se donnait le droit de parler de ça, même si parfois, ça peut choquer.
Et t'as formulé des excuses. Moi, je voudrais reconnaître un des messages qui m'a été envoyé d'une personne qui m'a dit « Attention, parce que si vous ouvrez cette canne-là, ben, le débat se fera peut-être pas de façon humaine et réfléchie. » Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'au Québec, on est assez humain et réfléchi, puis qu'on est capable d'avoir un débat intelligent. Alors, j'espère que le message sera entendu, puis que moi, je compte rencontrer deux des personnes, d'ailleurs, qui m'ont écrit en privé pour me dire « On aimerait ça vous rencontrer ». Discuter des paramètres de ce débat-là pour pas que ça aille dans toutes les directions puis pour pas que ça devienne une autorisation à tuer. Là. C'est pas ça.
Non, c'est absolument pas. Voilà. Mais Luc, on va faire les choses correctement et une étape à la fois. Dans notre tour de temps, pourquoi pas un spécialiste avec une personne qui est confrontée à cette réalité.
Des gens qui sont pas d'accord, pas du tout d'accord avec
aussi,
nous aussi. Là.
Aussi, absolument. y a un auditeur qui nous écrit que les chèques emploi-service ont été réduits et même coupés, tu vois. Alors,
ben oui.
Ça, c'est...
Ah, puis tu sais comment ça marche hein, dans un CRDI? La plupart du temps, s'il augmente l'emploi-service, les chèques emploi-service pour une personne, puis il y en a qui en ont 24 heures par jour, là. Mm-hmm. S'il l'augmente pour une personne, ils vont en avoir moins pour les autres parce qu'il y a un plafond à la dépense. Fait que là, il dit, OK, je reconnais que tu as des droits. Par exemple, tu as absolument besoin d'avoir une intervenante qui te suit lors des repas ou je sais pas quoi. Je vais te donner 3 heures par jour. Ils vont le couper à quelqu'un d'autre?
Ben oui, c'est sûr.
T'en rends-tu compte?
Non, mais c'est pas illimité les ressources dont on dispose. Là.
Ouais.
C'est une question de dire, ben, on priorise quoi? Mais moi, la dernière chose qu'on veut éviter, c'est de se mettre la tête dans le sable et faire comme si ça n'existe pas. Mais puis bravo à Caroline Touzin qui a révélé une histoire épouvantable. Voyons donc, c'est la solution d'envoyer une jeune de 24 ans atteinte d'un syndrome qui fait qu'elle est comme un bébé, là, presque un enfant, alors totalement vulnérable. Merci pour vos nombreux commentaires. Ça continue de faire réagir, Luc. Mais loin de nous de nous taire, parce que ce n'est pas le mandat de cette émission.
J'en ai pas moins là-dedans, oui. Anyway.
Non, tu es très mauvais, effectivement, là-dedans, je le confirme. Courte pause.